VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le président élu Roch Marc Christian Kabore doit désormais attendre les résultats des législatives pour connaître sa marge de manœuvre en vue de mener sa politique de développement dans un pays à l'histoire marquée par des coups d'État. Les résultats de ce scrutin à un tour à la proportionnelle par circonscription devraient être connus aujourd'hui même, selon une source au sein de la commission électorale. Mais d'ores et déjà, le président Kabore a annoncé son intention de former un gouvernement d'ouverture, une mesure bien accueillie par les Burkinabés.
Mademoiselle Muriel Zunti, et je pense que c'est une bonne chose. Déjà que ça fait combien de temps déjà, on n'avait qu'un seul président. Nous, on n'a connu qu'un seul président. Et voilà qu'un nouveau président vient, un gouvernement d'ouverture. Ça permettra quand même à chacun de venir poser sa pierre pour qu'il y ait une bonne fondation déjà, pour que les choses avancent et que le fossé que certains avaient creusé puisse quand même être bouché. Moi, je pense bien que Zéphirin de l'UPC ferait un bon premier ministre parce qu'il a beaucoup de choses à nous donner et on va avancer avec les deux.
Jonas Nguyen, je suis le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Si le président le veut déjà, nous nous saluons cela. Il faut effectivement rassembler tous les Burkinabés. Il faut féliciter le candidat élu et saluer cette disponibilité d'esprit d'aller vers la réconciliation nationale de tous les Burkinabés qui a été un souci majeur pour nous tous. Et nous pensons que c'est dans cet esprit-là que tous les Burkinabés devraient l'accompagner à réussir sa mission. Et en la matière, comme nous le disons maintenant au Burkina Faso, plus rien ne doit être comme avant. Dans ce sens aussi, il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser le chef de l'État ou le gouvernement tout seul. Il faut savoir l'accompagner avec des propositions, avec des critiques constructives.
Enoch Bongongo. Le gouvernement d'ouverture, je pense que c'est tellement exceptionnel qu'on puisse faire la coalition de tout le monde, s'associer et puis travailler, s'unir, c'est une bonne chose, puisqu'on dit que l'union fait la force. Donc c'est bon aussi de travailler ensemble. Le gouvernement d'ouverture, là, je pense que ça ne peut pas tuer les opposants.
Voilà, c'est un micro-trottoir réalisé dans les rues de Ouagadougou par notre correspondant Zoumana Wonongo. Washington a annoncé hier l'adoption de sanctions financières contre deux responsables du groupe islamiste Boko Haram, des précisions avec Chérubin Dorsil.
Mohamed Nour, de nationalité nigériane, est accusé par Washington d'avoir été un des organisateurs de l'attentat contre un bâtiment des Nations Unies à Abuja en 2011. Ses éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et il est interdit à toute société ou ressortissant américain de commercer avec lui. Il était considéré comme le numéro 3 du groupe du temps de Mohamed Youssouf en 2009. En 2011, il est devenu un des lieutenants d'Aboubakar Shekau. Les États-Unis ont sanctionné aussi Mostafa Tchad, de nationalité tchadienne, qui aurait mené des attaques au Nigeria. Pour le sous-secrétaire au Trésor en charge de la lutte contre le terrorisme, Boko Haram est une menace pour toute société civilisée. En novembre 2013, les États-Unis avaient déjà placé ce groupe sur la liste noire des organisations terroristes.
Nigeria toujours, le conseiller à la sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan a été arrêté hier avec d'autres suspects dans un vaste scandale de corruption sur des contrats d'armement. Sambo Dasuki, âgé de 60 ans, est soupçonné d'avoir accepté 2 milliards de dollars de contrats fictifs d'armement. À la mi-novembre, il avait été accusé dans un rapport d'avoir conclu des contrats fictifs et fantômes pour un total de 2 milliards de dollars pour l'achat de 4 avions, 12 hélicoptères et des munitions. Et puis le général guinéen Sékouba Konaté, qui a brièvement occupé la présidence de son pays après le départ de Dadis Camara du pouvoir à Conakry, a plaidé coupable aux États-Unis hier d'avoir essayé de faire entrer illégalement en territoire américain en 2013 64 000 dollars en espèces. Le général Konaté risque jusqu'à 5 ans de prison quand sa sentence sera prononcée en février 2016. Sékouba Konaté dit qu'il n'avait pas compris les instructions de la douane américaine à son arrivée à Washington en 2013 en provenance d'Éthiopie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, au moins 4 civils ont été tués mardi soir lors d'un double attentat suicide à Ouaza, dans l'extrême nord du pays. 2 kamikazes se sont fait exploser dans 2 quartiers de Ouaza, a affirmé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. La radio d'État confirme l'information, expliquant que les 2 kamikazes ont actionné leur charge explosive en tuant 6 personnes, dont elle-même. En Centrafrique, moins de 24 heures après la visite triomphale du pape François et son appel à la réconciliation, un jeune musulman a été tué au quartier PK5, enclave musulmane de Bangui. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Dans la petite mosquée Ali Babolo, au cœur du quartier PK5, l'arrivée du cadavre d'un jeune musulman a douché l'optimisme des fidèles. Zakaria, 35 ans, était le père de 3 enfants. Il se trouvait devant la mosquée Ibn Khattab lorsque des hommes armés lui ont tiré dessus. Selon plusieurs témoins, les tireurs étaient postés de l'autre côté du canal baptisé Essayez voir, qui sépare l'enclave musulmane des quartiers chrétiens de Bangui. Après ce meurtre, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, s'est rendu en urgence au PK5 pour apporter son soutien aux populations, les appelant à ne pas céder aux provocations des ennemis de la paix. Craignant un cycle de représailles, Ibrahim Hassan, porte-parole de la coordination des organisations musulmanes, a appelé sa communauté à ne pas tomber dans le piège. Depuis le mois de septembre, au moins 100 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires.
C'était hier la journée mondiale de lutte contre le sida. L'accent a été mis sur les adolescents, de plus en plus vulnérables sur le continent africain. L'ONU SIDA s'est engagée à éliminer la pandémie de sida d'ici à 2030. Un pari possible, affirme un activiste. Plus de détails avec Anastasie Toudiech.
Le sida nous guette et guette la jeunesse, dit Jeanne Gapiya Nyonzima. Cette activiste burundaise qui vit avec le VIH-SIDA depuis 29 ans dénonce la disparité dans le traitement des adolescents, dont le nombre des décès à travers le monde a triplé depuis 2000 selon l'ONU.
C'est pire chez les enfants parce que 9 sur 10, les enfants ne reçoivent pas le traitement alors qu'ils en ont besoin. Et cette injustice envers les enfants, c'est quelque chose qui m'écœure et qui n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à être égoïste, à traiter que des adultes et à laisser les enfants parce qu'eux, ils ne peuvent pas venir demander et faire le plaidoyer pour eux. C'est inacceptable.
Mani Djelassem, tchadienne de 17 ans, a été infectée à la naissance.
Je suis née des parents séropositifs. Je tombais souvent malade. On m'a dit que j'étais infectée. Et quand j'ai su que j'étais infectée, je savais quoi dire quand j'étais vraiment triste. J'étais toujours enfermée. Les gens me stigmatisaient, quoi. Les gens me disaient n'importe quoi. Heureusement, j'ai eu accès au traitement. Mais beaucoup d'enfants séropositifs n'ont pas eu cette chance que j'ai eue.
L'autre défi de taille, les mères infectées peinent à donner naissance à des bébés non malades, ce qui révolte Jeanne Gapiya Nyonzima.
Nous, les personnes infectées, nous, les mamans qui ont perdu des enfants, comme je le dis, je me bats pour qu'il n'y ait plus une mère qui donne la mort au lieu de donner la vie. Moi, j'ai donné la mort. Je n'ai pas donné la vie. J'ai donné la vie, mais j'ai donné aussi la mort. Pourtant, les femmes, nous sommes faites pour donner la vie. Aujourd'hui, ce n'est plus excusable qu'on laisse les mamans, parce que les femmes infectées ont droit de procréer aussi. Qu'on les laisse avoir des enfants infectés et qu'elles voient leurs enfants mourir comme j'ai vu mon fils.
En 2014, près de 37 millions de personnes étaient infectées, mais environ 16 millions étaient sous traitement antirétroviraux. L'Afrique reste le continent le plus touché. ONU SIDA promet d'éliminer l'épidémie d'ici 2030, avec l'objectif de soigner 90% des personnes porteuses du VIH.
Le président chinois Xi Jinping rencontre vendredi ses homologues africains à Johannesburg pour le 6e sommet sur la coopération sino-africaine. Au programme des discussions, l'avenir des investissements chinois sur le continent après des années de relations économiques au beau fixe. Le président Xi Jinping a commencé son périple africain par le Zimbabwe. Malgré le récent repli, la Chine demeure le premier pays partenaire économique de l'Afrique depuis 2009. Un tiers des projets chinois de construction à l'étranger sont réalisés en Afrique. La lutte contre l'État islamique maintenant, les États-Unis se sont dit prêts à renforcer la cinquantaine de soldats des forces spéciales américaines envoyées dans le nord de la Syrie. Washington entend déployer une unité de forces spéciales de 200 hommes en Irak pour des raids contre les djihadistes. Et puis en Grande-Bretagne, après beaucoup d'hésitations, le Parlement devrait, sauf surprise, autoriser le gouvernement de David Cameron à participer aux frappes contre le groupe islamique, le groupe État islamique en Syrie. Le vote est attendu tard ce soir. Et pour terminer au Yémen, le réseau Al-Qaïda s'est emparé brièvement de la ville de Djar, tenue par les forces pro-gouvernementales dans le sud du pays. Après des combats qui ont fait au moins 7 morts, les djihadistes se sont repliés après avoir occupé la localité pendant quelques heures. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.